Juste avant de commencer l'instruction, on me signale qu'il faudrait que celles qui partent en train s'inscrivent le plus rapidement possible afin de pouvoir organiser les différents transports. Donc si ce n'est pas fait encore, faites-le rapidement. La vie chrétienne doit donc, il n'y a pas donc notre vie chrétienne, oui, englobe toute notre vie. Donc pas se dire, tiens, ce domaine-là, Dieu n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, on vous l'a assez dit. Il me semble me souvenir de ma première instruction, que Dieu est partout, il nous donne et maintient dans l'existence. Rappelez-vous, ça fait déjà très longtemps qu'on vous disait ça. Donc on doit tout à Dieu, donc on doit lui soumettre toute notre vie. Or, un jour ou l'autre, si ce n'est déjà fait, vous allez être confronté à un problème important. Ça va être celui des écoles. En effet, parce qu'il s'agit peut-être de vos enfants, ou de vos petits-enfants, ou de neveux, de nièces, ou parce qu'il vous faudra donner des conseils, ou mettre les enfants dans les écoles, ou les scolariser, dans les écoles publiques, dans les écoles sous contrat, dans des écoles hors contrat, dans des écoles catholiques ou non. Alors pour essayer de donner une réponse que vous connaissez déjà, essayons de voir d'abord l'importance de l'éducation et ensuite, évidemment, en conséquence, l'importance de l'école et en conséquence de l'école vraiment catholique. Importance de l'éducation. Le premier devoir des parents vis-à-vis de leurs enfants, c'est de les éduquer. En effet, cela fait partie de la fin première du mariage, qui est la procréation et l'éducation. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des enfants, encore faut-il les élever. Et cela fait partie de la fin première. Bon, je m'arrête tout de suite parce que, bon, certaines le savent, j'ai été plusieurs années directeur d'une école secondaire et j'ai entendu des choses quand même assez incroyables pendant ces plusieurs années où j'ai passé. Entre autres, une des parents qui viennent me voir, bon, bah, évidemment, bah, on les avait convoqués parce que leurs enfants nous causaient un peu de soucis, disons. Et alors, voilà, on dit bah, comment faire, etc. Bref. Et puis les parents qui nous disent, mais monsieur l'abbé, ce que vous nous dites là, mais c'est votre problème. Pardon ? Oui, vous savez, c'est vous les éducateurs, c'est pas nous. Alors là, les bras m'en sont tombés, quoi, si vous voulez. Non, eux, les parents, à la limite, voilà, ils avaient les enfants, et puis, hop, ils vous les confient à l'école, je m'en débarrasse, et c'est vous l'école qui devait être éducateur. Ben, je suis désolé, non, 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 c'est pas ça. Donc ça fait partie de la fin première du mariage, procréation et éducation. Donc que veut dire éduquer, educere, conduire à partir de? Ça veut dire que ce tout petit enfant que Dieu vient de vous confier, eh bien vous devez, parents, le prendre dans cet état qui est presque rien, vraiment un tout petit bébé, hein, vous savez plus que moi ce que c'est, et puis bah, de ce petit enfant, il va falloir l'élever, le faire monter, le conduire, comme dit saint Paul, jusqu'à la taille du Christ. Donc ça, c'est une œuvre de longue haleine. C'est très souvent difficile, parfois même ingrate, mais en tout cas toujours exaltante. Former un homme en façonnant en lui le Christ. Voilà l'éducation. Former un homme en façonnant en lui le Christ. Tel est le but de l'éducation. Donc l'éducation est bien la formation de l'homme qui lui permet d'atteindre la fin en vue de laquelle il a été créé, le ciel. Revenez toujours là, hein. C'est ça, ça c'est l'essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? On permet à un enfant d'atteindre la fin pour laquelle il a été créé, le ciel. Donc lui donner les moyens un jour de pouvoir aller au ciel. Ben, vous voyez tout de suite l'œuvre immense, importante de l'éducation. Donc il s'agit de former l'homme déchu et racheté. Alors je vais citer souvent Pie XI parce qu'il a une encyclique magistrale qui s'appelle Divini Ilius Magistri sur l'éducation. Et là, il redonne vraiment tous les grands principes de l'éducation. Voilà ce qu'il dit. En effet, il ne faut jamais perdre de vue que le sujet de l'éducation chrétienne, c'est l'homme tout entier. Un esprit joint à un corps dans l'unité de nature avec toutes ses facultés naturelles et surnaturelles, telles que nous le font connaître la droite raison et la révélation. Toutefois, c'est aussi l'homme déchu de son état originel, mais racheté par le Christ et rétabli dans sa condition surnaturelle de fils adoptif de Dieu, sans l'être pourtant dans les privilèges préternaturels d'immortalité de son corps, d'intégrité et d'équilibre de ses inclinations. Subsistent donc dans la nature humaine les effets du péché originel, et en particulier l'affaiblissement de la volonté et le désordre de ses tendances. Il faut donc, dès l'âge le plus tendre, réprimer les inclinations déréglées de l'enfant, développer, discipliner celles qui sont bonnes. Il importe en particulier d'imprégner l'intelligence des vérités surnaturelles et de fortifier la volonté par le secours de la grâce, sans quoi il sera impossible de dominer les mauvaises inclinations et de mener à son terme et à sa perfection l'action éducatrice de l'Église. De cette Église que le Christ a dotée de la doctrine céleste et des sacrements divins pour qu'elle remplisse efficacement le rôle de maîtresse de tous les hommes. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc votre petit ange a les conséquences du péché originel. Ah et oui, désolé de vous le dire, mais c'est ça. Donc votre enfant est ignorant. Oui. Ah mais non, il sait tout. Non. Il est malicieux, il a la malice. Oui, ben vous le voyez vous-même par les caprices. Ou alors, mon fils ne ment jamais. Non, 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 c'est pas vrai. Non, il a la malice aussi. Mais ça, c'est des choses qu'on entend. Hein. Il a aussi la concupiscence, l'amour déréglé des biens sensibles. Ça se manifeste, ben, enfant, surtout ben, la gourmandise, la paresse. Il a une faiblesse pour le bien. Quand vous allez demander à votre petit garçon, votre petite fille, de rendre service, d'aller mettre la table, d'aider à la vaisselle, etc. Ben, vous voyez, parfois, ce n'est pas toujours simple. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Votre enfant a bien les conséquences du péché originel. Et là aussi, on voit parfois des parents surpris des fautes de leur enfant. Bien, d'abord, souvent, les parents, ils ont la mémoire courte, parce qu'ils ont oublié leurs propres fautes. Hein? Souvent, c'est ça. Et puis, oui, quand, bon, là, on le voit plus quand on est dans une école, évidemment, quand on convoque les parents pour parler des exploits de leur cher petit. Alors, ah bon, il a fait ça? Et oui. Ah ben là, il tient de mon mari. Facile. Hein? Mais voilà, c'est des genres de réponses qu'on peut avoir. Ah oui, non, parce que moi, j'ai jamais été comme ça. Enfin, bref. Après, entre parenthèses, alors, je me rappelle, hein, oui, je ne sais plus pourquoi on avait puni un enfant. Et puis, alors, il y a le père qui arrive et qui dit, bien sûr, heureusement, là, il nous confortait. Il disait, oui, non, les abbés ont bien fait de te punir, etc. Puis bon, l'enfant s'en va, etc. Et puis ensuite, le père me dit, mais vous savez, j'étais comme lui. Hein. Là, au moins, il le reconnaissait. Mais il ne l'a pas dit devant l'enfant. Donc, pas de faute d'autorité, attention. Alors, et puis j'ai un autre confrère, maintenant, lui, qui est toujours resté dans l'école où j'étais. Donc lui, ça fait plus de 20 ans qu'il est dans l'école. Et maintenant, il commence à voir les enfants... Bah, de ceux qu'il a eu de notre temps, quand on était ensemble. Alors je lui disais un jour, Ah oui, c'est vrai, vous commencez à avoir les fils donc des grands que nous avons eus. Il dit, oui, c'est vrai, etc. Alors, à un moment, je lui dis, j'espère que ça vous échappe pas. Oh, toi, t'es comme ton père! Ça doit être le danger. Alors, il m'a dit, non, pas encore. Bref, donc, nos chers petits chérubins, tête blonde, ont effectivement le péché originel. Donc l'éducation est importante, hein, bien sûr, pour Dieu, pour les âmes créées pour lui, hein, et pour l'avenir, bien sûr, de la société, de l'Église. Donc la famille, c'est d'abord la première éducatrice de l'enfant. Donc d'où, évidemment, l'importance de la famille. Et ça, le pape le dit bien. Et là, enfin, je vous dis, à la différence de ses parents que j'ai eu une fois, non, le pape dit bien. Le premier milieu naturel et nécessaire de l'éducation est la famille, précisément destinée à cette fin par le Créateur. De règle donc, l'éducation la plus efficace et la plus durable sera celle qui sera reçue dans une famille chrétienne, bien ordonnée et bien disciplinée, et son efficacité sera d'autant plus grande qu'y brilleront plus clairement et plus constamment les bons exemples, surtout des parents, puis des autres membres de la famille. Vous voyez, l'éducation se fait surtout par l'exemple, évidemment. Donc, importance de l'éducation. Ensuite, eh bien, voyons maintenant l'importance de l'école. Pourquoi on arrive à l'école? Ben, évidemment, parce que les parents ne peuvent pas tout faire dans cette œuvre de l'éducation. Donc, ils vont chercher des collaborateurs pour les aider. Et quels vont être les concours indispensables à leur œuvre d'éducation? Qu'est-ce qui va aider les parents dans leur œuvre d'éducation? Bon, d'abord, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, le secours de Dieu et sa grâce. Donc, évidemment, ça, il faut savoir. Je pense que vous le faites, évidemment, c'est naturel, mais priez pour vos enfants, c'est clair, hein. Donc, demandez au bon Dieu. C'est ce cours de sa grâce pour vos enfants et puis vous-même pour vous éclairer dans les bonnes décisions à prendre. Ensuite, le concours indispensable va être l'aide de l'Église et de ses ministres. Alors là, dans la laïque, comme on dit, ce qu'on entend aujourd'hui, ah, oh, l'éducation, de toute façon, ce n'est pas une affaire de curé et de bonne sœur. Eh bien, vous avez Pie XI, là aussi, qui répond très bien à cette objection. Je ne vais peut-être pas tout lire, c'est long. L'éducation appartient d'abord, d'une manière suréminente, à l'Église, à deux titres d'ordre surnaturel que Dieu lui a conférés à elle exclusivement et qui sont pour ce motif absolument supérieurs à tout autre titre d'ordre naturel. Le premier titre se trouve dans sa mission expresse et l'autorité suprême du magistère que son divin fondateur lui a donné. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et la terre, allez donc enseigner toutes les nations, baptisez-les, etc. Donc, vous voyez, l'Église, par son fondateur, a reçu la mission d'enseigner. Donc c'est vraiment notre Seigneur lui-même. Ensuite, bon, bref, je passe un peu. Et puis le second titre de cette mission de l'Église, d'éduquer, c'est sa maternité surnaturelle, par laquelle l'Église, épouse immaculée du Christ, engendre, nourrit et élève les âmes dans la vie divine de la grâce par ses sacrements et son enseignement. Voilà, donc je n'insiste pas plus. Donc c'est vrai, ça fait vraiment partie, c'est le rôle de l'Église aussi, de l'éducation, de l'enseignement. Et puis enfin, troisième concours indispensable, l'aide de l'école et de ses maîtres, que les parents ont le devoir et le droit de bien choisir. L'école est donc de sa nature une institution auxiliaire de la famille et de l'Église. Là aussi, le pape Pie XI, toujours dans son encyclique, là même, le dit très bien. À ne considérer donc que ses origines historiques, l'école est de sa nature une institution auxiliaire et complémentaire de la famille et de l'Église. Partant, en vertu d'une nécessité logique et morale, l'école doit non seulement ne pas se mettre en contradiction, mais s'harmoniser positivement avec les deux autres milieux. dans l'unité morale la plus parfaite possible, de façon à constituer avec la famille et l'Église un seul sanctuaire consacré à l'éducation chrétienne. Faute de quoi, elle manquera sa fin pour se transformer au contraire en œuvre de destruction. Ça, il faudrait le redire, le publier partout. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la famille, l'Église et l'école. Si les trois sont unis, ça sera pour le bien de l'enfant, autrement, ça sera une œuvre de destruction. C'est ce que dit le pape. Bon, on en parlera plus tard, évidemment, mais malheureusement, puisqu'on ne respecte plus ces principes aujourd'hui, ben, on voit les résultats. Si vous voulez, c'est une logique rigoureuse. Et là, je ne vois pas comment on peut la contredire. Si vous avez une famille catholique, automatiquement, on doit vouloir une école catholique. Et une école est jugée catholique, comment on peut voir qu'une école est catholique? Eh bien, lorsque l'enseignement et toute l'ordonnance de l'école sont réglés dans un esprit chrétien, sous la direction de l'Église. Et là, c'est le pape Pie XI, toujours, qui poursuit un peu plus loin. Ainsi donc, le seul fait qu'il s'y donne une instruction religieuse, souvent avec trop de parcimonie, ne suffit pas pour qu'une école puisse être jugée conforme aux droits de l'Église et de la famille chrétienne et digne d'être fréquentée par les enfants catholiques. Donc, il imagine une école avec un cours d'instruction religieuse un peu saupoudré. Il dit ben ça ne suffit pas pour faire une école catholique. Pour cette conformité, il est nécessaire que tout l'enseignement, toute l'ordonnance de l'école, personnel, programme et livres, en tout genre de discipline, soit régi par un esprit vraiment chrétien, sous la direction et la maternelle vigilance de l'Église, de telle façon que la religion soit le fondement et le couronnement de tout l'enseignement, à tous les degrés, non seulement élémentaires, mais moyens et supérieurs. Il est indispensable, pour aller reprendre les paroles de Léon XIII, que non seulement à certaines heures la religion soit enseignée aux jeunes gens, mais que tout le reste de la formation soit imprégné du parfum de la piété chrétienne. Sans cela, si ce souffle sacré ne pénètre pas et ne réchauffe pas l'esprit des maîtres et des disciples, la science, quelle que soit, sera de bien peu de profit. Souvent même, il en résultera que de sérieux dommages. Vous voyez, vraiment, tout doit respirer cette atmosphère chrétienne. Et même un peu plus loin, le pape va même préciser ce qu'il appelle le programme catholique. Donc, dans cette école, en harmonie avec l'Église et la famille chrétienne, il n'arrivera pas qu'il y ait contradiction, au grand détriment de l'éducation, entre les leçons des divers enseignements et celles de l'enseignement religieux. Oui, il ne doit pas avoir contradiction. Si l'on croit indispensable par scrupule de conscience de faire connaître aux élèves certaines œuvres contenant des erreurs qu'il sera nécessaire de réfuter, cela se fera avec une telle préparation et de tels préservatifs de saine doctrine que, loin d'en être affaibli, la formation chrétienne de la jeunesse en tirera profit. Bon, après, il y a tout un long développement, mais intéressant. Vous voyez, dans cette école, pareillement, l'étude de la langue nationale et des lettres classiques ne deviendra pas occasion de ruine pour la pureté des mœurs. Qu'est-ce qu'il dit ? Le maître chrétien saura suivre l'exemple des abeilles qui recueillent dans les fleurs ce que celles-ci ont de plus pur pour laisser le reste, etc. Le maître chrétien se souviendra de ce que dit l'apôtre, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il se gardera par conséquent, en accueillant quelques nouveautés, de répudier inconsidérément ce qui est ancien, dont une expérience de plusieurs siècles a montré la valeur et l'efficacité, etc. Remarque qui s'applique spécialement à l'étude du latin, etc. Donc toutes ces nobles traditions demandent que l'on donne à la jeunesse confiée aux écoles catholiques une instruction dans les lettres et dans les sciences, pleinement conforme aux exigences particulières à notre époque, mais en même temps solide et profonde. On aura soin spécialement par une saine philosophie de se tenir éloigné de la manière superficielle et confuse de ces hommes qui auraient peut-être trouvé le nécessaire s'ils n'avaient pas cherché le superflu. Et ensuite, avec ça, le programme, il dit bien sûr, un autre élément essentiel, ce sont les bons maîtres. C'est moins la bonne organisation que les bons maîtres qui font les bonnes écoles. Que ceux-ci, parfaitement préparés et instruits, chacun dans la partie qu'il doit enseigner, ornés de toutes les qualités intellectuelles et morales que réclament leur si importante fonction, soient enflammés d'un amour pur et surnaturel pour les jeunes gens qui leur sont confiés, les aimant par amour pour Jésus-Christ et pour l'Église dont ils sont les fils privilégiés, et ayant par cela même sincèrement à cœur le bien véritable des familles et de la patrie. C'est bien ce qui nous remplit l'âme de consolation et de reconnaissance envers la bonté divine, de voir à côté des religieux enseignants un aussi grand nombre de bons maîtres et de bonnes maîtresses. Bon, ça paraît logique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses peut-être à redire, qui paraissent peut-être plus tellement logiques. Donc non seulement Pie XI, mais Pie XII aussi. Voyez, lui va définir l'école catholique à partir du but recherché par de tels établissements. Pour changer un peu de pape, voilà ce que dit Pie XII. Toutefois, l'efficacité d'un système éducatif dépend en définitive de sa fidélité entière au but premier qu'il se propose. L'école chrétienne justifiera sa raison d'être dans la mesure où ses maîtres, clercs et laïcs, religieux et séculiers, réussiront à former de solides chrétiens. Que leurs ailes s'appliquent donc inlassablement à associer toujours davantage leurs élèves à la vie de l'Église, à les faire participer à sa liturgie et à ses sacrements, puis à les initier selon les capacités de leur âge à l'apostolat parmi leurs compagnons, dans leur famille, dans leur milieu de vie. Qui les habitue aussi à regarder l'immense champ missionnaire qui s'ouvre en réalité aux portes même de l'école ou du collège. Qui leur élève, qui leur révèle les possibilités apostoliques qui s'offrent à leur générosité dans les vocations sacerdotales et religieuses ou parmi les formes si variées de l'action laïque. Oui, ça, on juge une école comme ça à ses fruits, hein, les fruits qu'elle donne. Alors vous avez le père Calmel qui tire les conséquences. Voilà ce qu'il dit. Assurer le succès à un examen officiel de l'État laïque ne peut pas être la fin primordiale des établissements qui se réclament de l'Église de Jésus-Christ. Ils doivent former des chrétiens. Ils ne sauraient y prétendre s'ils n'enseignaient pas chrétiennement les matières profanes. Et tout est là, vous voyez. On peut effectivement enseigner de manière chrétienne les matières profanes. Il y a tout un esprit dedans. Et surtout, on ne va pas opposer la science et la révélation, puisque Dieu est l'auteur des deux. Il n'y a pas d'opposition. Ainsi donc, l'enfant doit-il baigner dans une atmosphère véritable catholique, afin de recevoir une éducation digne de sa nature d'enfant de Dieu. Donc, il ne doit pas trouver de contradiction entre l'école et l'éducation qu'il reçoit en famille. Il ne doit pas y avoir cette contradiction. Bien sûr, ce sont un peu dans ce but que travaillent évidemment nos écoles traditionnelles, celles de la fraternité, celles des dominicaines, etc. Donc là, je pense, ça me paraît logique de bien comprendre cette suite entre l'école, entre la famille et l'école. Alors bien sûr, les parents ensuite ont le devoir d'aider ces bonnes écoles. Au lieu peut-être parfois, peut-être à leur insu, de contrarier le sens de leurs efforts. Et là, je vais vous lire deux textes de Pie XII qui peut arriver. Parce que on comprend, oui, la nécessité des bonnes écoles, on les met dans les bonnes écoles, et puis ensuite, à la limite, alors là, on tire à boulet rouge sur ces écoles. Non. Dans ce cas-là, on va détruire l'action de ces écoles, c'est sûr. Là, par exemple, c'est Pie XII qui fait un discours aux mères de famille italienne. Le 26 octobre 1941, aux mères de famille italienne. Dans votre œuvre éducatrice qui n'est jamais restreinte à un petit nombre de choses, vous sentirez le besoin et l'obligation de recourir à d'autres auxiliaires. Choisissez les chrétiens comme vous et avec tout le soin que mérite le trésor que vous leur confiez, c'est-à-dire la foi, la pureté, la piété de vos enfants. Mais quand vous les aurez choisis, ne vous regardez pas par cela même libre et dégagé de vos devoirs et de votre vigilance. Vous devez collaborer avec eux. Qu'ils soient ses maîtres et ses maîtresses, autant que vous le voulez, d'éminents éducateurs. Ils réussiront à faire peu de choses pour la formation de vos enfants toutes les fois que vous n'unirez pas votre action à la leur. Qu'obtiendrez-vous dès lors si votre action, au lieu d'aider et de fortifier l'œuvre des maîtres, venait à se dresser pour la contrarier et se mettre en travers? Si vos faiblesses, si vos partis pris pour un amour qui ne sera que feinte d'un égoïsme mesquin, détruisent au foyer familial ce qui a été bien fait à l'école, au catéchisme, dans les associations catholiques, pour former le caractère et guider la piété de vos enfants. Effectivement, et là, comme éducateur, ça on le voit, enfin, malheureusement même dans, chez nous, hein, on voit que souvent le travail qu'on fait, qu'on s'efforce de faire à l'école, eh bien, il est détruit à la maison. Parce qu'il n'y a pas cette correspondance parfaite. Parce qu'à la maison, ben, on se laisse aller, on a une éducation plus lâche, on est moins regardant sur des dangers. Vous voyez, je vous ai parlé d'Internet, de télévision, etc. Bon, ben, évidemment, on va le dire nous aux enfants. Et puis l'enfant, quand il rentre à la maison, ben, il peut regarder la télé, il peut aller sur n'importe quoi, voir Internet. Ben, évidemment, vous détruisez. Aussi un autre endroit. Le choix, non, dit oui, c'est ça. Le choix des maîtres chrétiens ne leur enlève ni leurs droits ni leurs responsabilités d'éducateurs. Oui, ça c'est un peu autre chose. Et ça aussi, c'est Pie XII qui le dit. Comme je vous disais, ses parents qui vraiment m'avaient surpris en disant ben non, on vous les confie, puis après, c'est nous, on n'a plus rien à voir. Dans la formation, donc c'est Pie XII, le 15 janvier 1941, aux jeunes époux, allocution aux jeunes époux. Dans la formation chrétienne des petites âmes que le Seigneur vous confiera en les créant pour vivifier les corps formés de vous, il vous a réservé un rôle, un magistère dont vous n'avez pas le droit de vous désintéresser et dans lequel personne ne pourra vous remplacer pleinement. Dans cette sainte formation, vous irez sans doute chercher l'aide de prêtres et de catéchistes zélés, de ces excellents éducateurs que sont les religieux et les religieuses, mais leur secours aura beau être grand, précieux et étendu, il ne vous dégagera pas de vos devoirs et de votre responsabilité. Que de fois les maîtres chrétiens se plaignent et se lamentent de la difficulté, parfois même de l'impossibilité à laquelle ils se heurtent quand ils doivent, dans l'éducation des enfants qui leur sont confiés, remédier et suppléer par leurs soins à ce que la famille aurait dû faire et n'a pas fait ou a mal fait. Donc conservez pour le Seigneur les petits anges que le ciel vous donnera. Et n'oubliez jamais qu'auprès d'un berceau doivent se tenir deux pères et maîtres, l'un naturel et l'autre spirituel. Donc les parents et l'Église. Vous voyez, là aussi, hein, parce que parfois on entend aussi des critiques, mais comment, l'école n'a pas fait ça, etc. Mais les parents ne se posent jamais la question. Mais peut-être que vous auriez dû faire ça en famille, peut-être. Non, il vous dit, il y a une espèce de déresponsabilisation. On les confie à l'école, donc à la limite, c'est l'école qui doit tout faire. Et puis nous, les parents, bien, non. Finalement, c'est la belle vie. Ben non, non. Vous voyez, les papes hein, insistent bien. Hein, c'est d'abord les parents qui sont les premiers responsables. Et l'école ne vient comme aide hein, pour les parents. Alors, appliquons d'autres conséquences. Cette école catholique, conséquence de tout ce qu'on vous vient de dire, eh bien, il y a une obligation de l'école catholique, évidemment. C'est-à-dire que quand vous relisez ce que disent les papes, eh bien, vous verrez que les papes vont interdire ce qu'ils appellent l'école neutre, c'est-à-dire l'école laïque. Et là aussi, vous avez Pie XI, déjà, donc en... que je ne dise pas de bêtises... C'est quoi l'encyclique de 1927, je crois, si je me trompe. Non, 1929, pardon, du 31 décembre 1929, donc vraiment le dernier jour de l'année. Eh bien, voilà ce qu'il disait sur l'école laïque. Donc, il prend lui aussi la conclusion de ce qu'il a dit. De là, il ressort nécessairement que l'école dite neutre ou laïque, d'où est exclue la religion, est contraire au premier principe de l'éducation. Il ne dit pas c'est facultatif, non. Il dit c'est contraire au premier principe de l'éducation. Une école de ce genre est d'ailleurs pratiquement irréalisable, car en fait, elle devient irreligieuse. Inutile de reprendre ici tout ce qu'on dit sur cette matière nos prédécesseurs, notamment Pie IX et Léon XIII, donc déjà au XIXe. Parlant en ces temps où le laïcisme a commencé à sévir dans les écoles publiques, nous renouvelons et confirmons leurs déclarations et avec elles les prescriptions des sacrés canons. La fréquentation des écoles non catholiques ou neutres ou mixtes, attention, alors ça veut dire de celles qui s'ouvrent aux catholiques et aux non catholiques. Mixte dans ce sens-là, on mélange les catholiques et les non-catholiques, eh bien, doit être interdite aux enfants catholiques. Elle ne peut être tolérée qu'au jugement de l'ordinaire, dans des circonstances bien déterminées de temps et de lieu et sous de spéciales garanties. Vous voyez, à l'époque, mettre un enfant à la laïque, il fallait demander l'autorisation de l'évêque, qui devait l'autoriser que s'il était sûr qu'il y avait des moyens qui empêchaient à l'enfant de se corrompre. Il ne peut donc même être question d'admettre pour les catholiques cette école mixte, surtout si elle est unique et obligatoire pour tous, ou bien que l'instruction religieuse soit donnée à part aux élèves catholiques. Ceux-ci reçoivent cependant avec les élèves non catholiques tous les autres enseignements de maîtres non catholiques. Vous voyez, il dit, il ne suffit pas d'avoir un saupoudrage de cours religieux donné à des catholiques. Non, il faut que ce soit tout l'enseignement qui soit imprégné de la doctrine catholique. Prenez un exemple très simple. Si à l'école, on vous enseigne l'évolution dans les sciences. Est-ce que l'évolution est une doctrine catholique? Parce que l'évolution interespèce, où l'homme descend du singe, eh bien, si vous admettez ça, vous niez par le fait même le péché originel, puisque Dieu a créé un seul couple, Adam et Ève, qui ensuite ont fauté, donc il y a eu ce péché originel, ensuite l'incarnation de Jésus-Christ, etc. Donc si vous dites, moi je crois dans l'évolution qu'on descend du singe, et puis de je sais pas quoi, eh bien vous n'êtes pas catholique, c'est tout. Donc dans une école, l'enfant apprend son catéchisme, etc. Dieu a créé Adam et Ève, etc. Et puis le cours d'à côté, le cours suivant, on lui dit, mais non, il y a l'évolution, on descend du singe, etc. Vous voyez, le pauvre enfant, il va devenir schizophrène. Il y a un problème quand même. Donc, on comprend la sévérité des papes. Parce qu'encore une fois, l'école neutre ou laïque, ça n'existe pas. Comment je vais le dire un peu après. Donc, vous voyez, l'interdiction. Ensuite, je vous conseille un excellent livre que vous trouvez en vente ici, de l'abbé Troadec, La famille catholique. Il ne m'a pas demandé de faire publicité. Donc, si vous voulez, là-dedans, vous avez dans son livre effectivement toute une partie qui explique un peu les attaques contre l'Église catholique. Donc, vous avez plusieurs citations, donc je ne vais pas tout lire, hein, mais des choses très intéressantes justement sur cette école qui n'est pas catholique. Alors, vous aviez des évêques déjà en 1930, vous voyez, un certain Monseigneur Lefèvre de Lamothe. Un enseignement excluant Dieu par principe ne peut que fausser le jugement des enfants et les conduire au matérialisme et à l'athéisme. Voilà ce que dit cet évêque. La neutralité scolaire a un vice rédhibitoire qu'il faut avoir le courage de signaler et de reconnaître. Qu'on puisse enseigner la science de la nature, parler du ciel et de la terre, sans rencontrer et adorer leur auteur, c'est une gageure. Parler du devoir, de la morale, sans en chercher et sans en faire connaître le vrai fondement, le juge, la sanction, le principe obligatoire, quelle pauvreté. Bon, déjà, aujourd'hui, on ne veut plus de morale. Parler du corps humain sans parler de son âme immortelle, de la vie sans bénir la source première des vivants, de la mort sans résoudre ni même poser la question du lendemain de la mort, c'est se reconnaître incapable de satisfaire la légitime et si touchante curiosité de l'enfant qui nous harcèle de ses interrogations, et après, et pourquoi? C'est l'enfermer dans le cercle borné de ce qui se voit, se touche ou s'entend, c'est-à-dire l'habituer à vivre dans un matérialisme pratique sans idéal, sans espérance éternelle. Et d'ailleurs, dans une revue de l'enseignement primaire laïque, hein, de 1909, un promoteur de ce régime écrivait: l'école sans Dieu, c'est l'école contre Dieu. Nous n'y pouvons rien, c'est la force des choses. Vous voyez, eux-mêmes le disent, ils ne se cachent même pas. Bon, alors, ça, ayons le courage de le dire. Et Mgr Frepel, donc c'est grand évêque d'Angers, au fin 19e, voilà ce qu'il disait. Un enfant qui, à l'école pendant 6 ans, à raison de 5, donc il parle de l'école primaire, à raison de 5 heures par jour, n'aura jamais entendu parler de Dieu, croira sans peine que Dieu n'existe pas ou qu'il n'y a pas à en tenir compte. Donc vous voyez, là aussi, c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent nos ennemis. Ça, c'est très intéressant, on le voit. Et un peu plus loin, je prends que quelques passages assez intéressants, mais encore une fois, si vous en voulez plus, hein, n'hésitez pas, c'est page 278 et suivant. Par exemple, l'aveu de M. Viviani à la Tribune française. Il disait: on nous parle de neutralité scolaire, mais il est temps de dire que la neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique de circonstance. Bon, ils ont la franchise, oui, ils le disent. Un franc-maçon, un certain Decker Grobel, inspecteur d'académie, a dit à un convent du Grand Orient en 1896, donc il y a plus de 100 ans. Mais vous allez voir, enfin, c'est encore d'actualité. Le but de l'école laïque n'est pas d'apprendre à lire, à écrire, à compter, c'est de former des libres penseurs. Lorsqu'à 13 ans, il a quitté les bancs de l'école, l'élève n'a pas profité de l'enseignement s'il reste croyant. L'école laïque n'aura porté ses fruits que si l'enfant est débarrassé du dogme, s'il a renié la foi de ses pères, s'il a renoncé à la foi catholique. L'école laïque est un moule où l'on jette un fils de chrétien et d'où s'échappe un renégat. Comme les choses n'iraient pas assez vite à notre gré pour que l'apostasie soit générale, nous nous emparerons du monopole de l'enseignement et alors force sera aux familles de nous livrer leurs enfants. C'est violent, hein? Mais ça le mérite d'être dit, hein? Alors après, qu'on ne vienne pas de nous dire: ah, vous êtes sévère sur l'école laïque. Donc vous comprendrez sans problème, je pense, l'importance des écoles donc vraiment catholiques. Alors essayons de voir quelques objections qu'on peut faire à ces écoles vraiment catholiques. D'abord, ah, oh, monsieur l'abbé, que ce soit les écoles des dominicaines, que ce soit celles de la fraternité, mais vous savez, tout n'est pas parfait. Il y a quand même des mauvais professeurs, il y a de mauvaises institutrices. Quand même, il manque parfois de pédagogie, etc., etc. Bien. Oui, ça peut arriver, c'est vrai, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, chacun d'entre nous, on doit y tendre. Hein, et c'est vrai qu'il y a des cas particuliers, hein, où tel enfant pourra avoir de mal avec tel professeur, ou aussi que tel professeur sera peut-être pas parfait, ça c'est vrai. Donc, ça, je pense que c'est du cas par cas. Mais là, on est dans, je pense quand même, un peu dans des cas particuliers. De manière générale, non, je pense qu'on ne peut pas le dire. Mais qu'il y ait des cas particuliers, oui. Et ensuite, en général, bah, c'est à charge des directeurs, eh bien, de chercher à trouver les meilleurs professeurs qu'ils soient. Et encore une fois, étant passé par là, je peux vous dire que c'est le principal et le plus gros des soucis d'un directeur. C'est vraiment celui des professeurs. Parce que gérer des enfants, ça va. Gérer des parents, c'est un peu plus compliqué. Mais gérer des professeurs, c'est la croix. Parce qu'effectivement, si vous avez de bons professeurs, vous tenez tout. Vous tenez les parents, parce qu'ils sont contents, et vous tenez les enfants, parce qu'ils sont bien élevés. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment la pupille. Donc avoir le souci du bon professeur. Donc c'est le souci des directeurs d'école. Donc qu'il y ait des cas particuliers, oui, ça, mais encore une fois, la perfection n'est pas de ce monde. Alors là aussi, par expérience, je l'ai constaté, je l'ai fait. Comme maintenant, Dieu merci, il y a quand même plusieurs écoles, bon, la France n'est pas si grande que ça, les moyens de communication sont quand même relativement faciles, si vous voulez. Il peut arriver qu'un enfant qui a des soucis dans une école, eh bien, cela se passe très bien dans une autre. J'ai vraiment en tête un enfant, et pourtant on le faisait vraiment nous qu'avec modération, qui nous est arrivé d'une autre école de la fraternité, hein, renvoyé. Il est arrivé en troisième. Donc déjà à ce moment-là, renvoyé, bon bien sûr on téléphone au directeur, on essaie de voir pourquoi, etc. Effectivement, c'était un enfant, bah, il s'était braqué un peu avec tout le monde, avec tous les professeurs. Vous voyez, un garçon troisième, pleine crise d'ado. Voilà, donc plus rien à faire. Eh bien, si vous voulez, on l'a arrivé, je l'ai vu, je lui ai dit, bah, écoute, mon vieux, ici, on joue carte sur table. Hein, voilà, tu as un carnet, voilà, c'est vierge, tu as un carnet vierge. Donc, c'est à toi de jouer maintenant. Toi, tu n'es connu de personne. Alors, tu te prends en main. Voilà les règles dans l'école, voilà comment on faisait, et à toi de jouer. Eh bien, effectivement, il a joué le jeu. C'est-à-dire qu'il s'est refait une virginité, comme on dit. Il connaissait pas les professeurs, il a eu des difficultés, et j'ai vu ce garçon s'épanouir. Et puis, effectivement, après, il est passé sans problème. Exemple typique, dans une école, bah, il peut être saturé, ça peut très mal marcher, bref. Eh bien, il change d'école, et hop, de nouveau, il s'épanouit. Ça peut se faire. Ensuite, une autre objection qu'on entend, la pension. Ah non, je ne vais pas mettre mes enfants en pension, vous n'y comprenez pas quand même. Vous venez de nous le dire, là, c'est les parents qui sont les premiers éducateurs. Donc en pension, les enfants disparaissent, on ne les voit plus. Et puis nous, les parents, bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, sur la pension, c'est-à-dire, on peut répondre, il y a plusieurs choses. En soi, l'idéal, effectivement, ce serait que l'enfant soit externe même, c'est-à-dire même à la limite vienne remanger à la maison à midi, et puis il va à l'école à pied à 200 mètres. Pas de problème, il rentre à la maison. Et attention, je précise, là, il faut que les principes donnés dans la famille soient exactement les mêmes qu'à l'école. Et là, d'accord. Vous pouvez faire, on joue le jeu, pas de problème. Bien. Ensuite, c'est pas toujours ça, on n'habite pas forcément à 200 mètres d'une bonne école. Bon. Alors, la pension, est-ce que c'est aussi terrible que ça? Bon, je suis sûr que parmi vous, certaines sont passées par l'école, par une pension. Moi-même, ayant eu, donc, m'étant dire, bon, d'abord, j'ai été pensionnaire moi-même, ayant dirigé une école de pension. On peut voir qu'à partir de 9-10 ans, alors là je parle pour des garçons, hein, mais je pense que pour les filles ça ne doit pas être tellement différent, à partir de 9-10 ans, il n'y a pas de problème. Un garçon à 10 ans, il peut se prendre en charge, il va pas pleurer tous les soirs. Non, ça je veux dire, il faut être clair. Ensuite, qu'il y ait une séparation affective, oui. Qu'elle soit une souffrance, oui. Tout à fait d'accord. Que les parents en souffrent, oui. Mais c'est pareil, c'est toujours la même chose, c'est que quand le bon Dieu permet une épreuve, une souffrance, c'est pour un plus grand bien. Et quel est le plus grand bien qu'on peut voir dans une pension? D'abord, bon, c'est l'éducation catholique, évidemment, comme on l'a dit. Et ensuite, la pension, ça vous surprendra peut-être, mais elle renforce les liens familiaux. En effet, parce que le fait d'être séparé pendant l'année scolaire des parents, eh bien, on aime, on apprécie d'y retourner. Que ce soit les week-ends, ou même ce qu'on appelle les grandes sorties, ou pendant les vacances. Et effectivement, on est content de se retrouver en famille, et ça crée des liens familiaux, ça c'est sûr. On se fait aussi de bons amis. Là aussi, je crois que l'une ou l'autre d'entre vous me parlait que son mari avait gardé de bons amis, ben justement ceux avec qui il a été pensionnaire. Et c'est vrai, ça c'est une réalité aussi. Et puis ensuite, souvenez-vous aussi, mesdames, c'est que si vous souffrez de la séparation, sachez que c'est vous qui en souffrez le plus que l'enfant. Parce que bien sûr, vous allez me dire, ah non, c'est mon enfant qui souffre de la séparation, il ne peut pas se séparer de sa mère, c'est très difficile, mon enfant pleure, je vous assure, il en souffre. Tout ça, soyons clairs, francs, honnêtes, en réalité, c'est vous qui souffrez. Mais encore une fois, c'est légitime. Je comprends parfaitement cette souffrance et qu'elle soit légitime. Je veux dire, c'est presque au contraire une bonne chose. Mais ne croyez pas que l'enfant en souffre presque autant que vous. Non. J'ai un exemple là aussi. Bon, frappant. Un enfant revient, bon, il avait un peu de difficultés. Il revient de la famille, si je me souviens, il avait été malade, donc il était rentré un peu en retard. Donc en retard, il était resté plus longtemps chez lui, donc forcément chouchouté par ses parents, donc un peu de vacances, etc. Et puis, ben, il revient, l'école, perspective de reprendre le travail, de rattraper son retard, de quitter le nid familial. Il arrive en pleurs. Bien. Alors il est en pleurs, ses parents sont là, voilà, il nous parle, voilà, bon, mon fils, voilà, il va mieux, hein, etc. Et puis l'enfant n'arrête pas de pleurer. Bon. Alors au point que je commence à voir les yeux de sa mère s'humecter, briller. Bon. Alors je dis, ben voilà, alors ça n'arrêtait pas, on voyait que les parents étaient, ils parlaient. Bon, j'ai dit, écoutez, je crois qu'on a tout vu maintenant, hein. Et maintenant, il est temps, voilà, vous pouvez partir. Alors, ça n'arrêtait pas, l'enfant qui pleurait, qui était à côté, qui pleurait, maman, je ne veux pas rester, je ne veux pas rester, je veux partir, etc. Bon, j'ai dit, écoutez, maintenant, vous partez, je garde l'enfant. Vous partez, la porte est là. Allez, au revoir, monsieur, madame. On vous tiendra au courant de la suite de votre enfant. Rassurez-vous, on vous tient au courant si c'est bien réadapté, etc. Pas de problème. Alors, je tiens l'enfant qui pleure de tous ses coins. Maman, papa, maman, maman. Alors, les parents, quand même, j'ai réussi à me faire obéir. Donc, ils sortent, ils rentrent. On entend clac, la voiture qui démarre, la voiture qui commence à rouler. L'enfant qui était à côté, fini. Plus une larme. Sourire, je dis, bon, écoute, maintenant tu vas jouer avec tes camarades. Fini, plus une larme. Mais j'ai vu le changement radical. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les parents, eux, quand ils sont partis, ils ont gardé quoi comme image? L'enfant qui pleurait, malheureux, maman, j'en peux plus, je veux partir, je veux rentrer avec vous, je sais pas. Bon. Alors, évidemment, ça n'a pas manqué, mais ça, de toute façon, on l'aurait fait le soir, téléphone. De la maman, évidemment, c'est normal. Alors, comment va mon cher enfant? Écoute, je lui ai raconté ça. Je lui ai dit, voilà, madame, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ah bon? Oui, madame, c'est ça. Vous êtes sûre? Parce que je mens? Parce que vous croyez que je suis capable de vous mentir? Non, non, madame, voilà ce qui s'est passé. Et je peux vous assurer que maintenant, il est de nouveau avec ses camarades et ça va très bien. Alors, j'ai fait appeler l'enfant. Voilà, il va vous parler. Et puis évidemment, l'enfant s'est pas mis à pleurer. Non, non, il a dit, bah oui, maman, ça va très bien, j'ai retrouvé, etc. Voilà, très bien, maman. Voilà, au revoir, madame. Ouais, typique, mais c'était typique, si vous voulez. Donc ne croyez pas que, voilà, que le monde va s'écrouler, que votre enfant souffre le martyr en pension. Non. J'ai vu, alors je vais être franc aussi, sur mes nombreuses années passées, j'ai vu un cas, donc sur je ne sais pas combien de centaines d'enfants, j'ai vu un cas d'un enfant qui n'a pas supporté la pension. Alors, quel était le cas? Les parents, donc, ils mettent l'enfant en sixième, donc l'enfant a 11 ans. C'était des parents commerçants. Ils habitaient à 15 km de l'école. Donc, pas très loin de l'école. 15 km, et puis, voilà, bon, intéressés par l'éducation, etc. Et puis, en même temps, ils sont commerçants, ils disent, bah, ça nous laissera du temps libre. L'enfant, évidemment, n'avait pas été habitué, bon, il n'avait pas été habitué à une école, etc. Bon, il était vraiment très gentil, c'est pour ça qu'on l'avait pris quand même, etc. Très bonne. Sur un plan naturel, disons, très bien. Et puis, alors là, évidemment, dès le départ, bah, il a eu du mal au ventre, il dormait mal, etc. Bon, alors on a dit, bon, voilà, ça va être l'essai, il faut qu'il s'habitue petit à petit. Puis je sais pas combien de temps on a essayé, je pense peut-être au moins on a dû se dire, bah écoutez, il faut essayer jusqu'à la Toussaint. En général, souvent c'est comme ça, c'est 6 semaines. On dit, voilà, en principe à la Toussaint ça va mieux. Donc on essaie jusqu'à la Toussaint, l'enfant revient après les vacances de la Toussaint, pareil, du mal, etc., etc. Alors là, effectivement, là je pense, j'ai dit, écoutez, aux parents, là je pense vraiment, on est dans le cas où l'enfant a du mal de la pension. Donc, essayez de trouver une autre façon de vous organiser. On le met demi-pensionnaire et on verra bien comment ça se passera. Alors, les parents, bon, ils se sont organisés et effectivement, on l'a mis demi-pensionnaire. Et là, effectivement, changement radical. Plus mal au ventre, le sourire revenu, etc. Mais pas, ce n'était pas un caprice, hein, attention. Ce n'était pas l'enfant capricieux qui cherche. Non, parce que c'était un bon garçon. Donc, ce n'était pas le capricieux. Après, il était sérieux en travail, etc. Oui, c'est le seul cas que j'ai vu où vraiment, là, effectivement, l'enfant n'a pas supporté la pension. Un cas. sur, je ne sais pas combien, sur, je sais pas, plusieurs centaines. Donc, vous voyez, c'est quand même pas fréquent. Donc je prends vraiment la pension, et si on voit aussi le bon côté, je pense que ça favorise aussi les vocations. En ce sens que les vocations, c'est le bon Dieu qui appelle. Mais un enfant qui veut, qui écoute l'appel, eh bien, aura plus de loisir de l'entendre en pension que peut-être dans la famille. Parce que, bon, là aussi, il faut être honnête, dans la pension, il y a une certaine, comment dire, mortification, si vous voulez. On n'est pas dans sa famille, on n'a pas dans ses jeux communs. Donc il y a une certaine esprit de sacrifice, si vous voulez, d'esprit, oui, de sacrifice. Et là, ça favorise aussi les vocations, ça c'est certain. Et ça favorise la réponse à la vocation. Et je pense que l'abbé Troidec pourrait vous le dire, hein, parce qu'on en a parlé souvent. Eh bien, un enfant qui a été dans les pensions, bon là je parle des garçons, mais je pense encore une fois les filles c'est pareil, aura beaucoup plus de facilité à s'habituer à la vie du séminaire qu'un enfant qui n'a jamais été en pension. Ça c'est une, là aussi c'est un constat, tout simplement. Autre objection qu'on peut trouver à ces écoles vraiment catholiques, eh bien, c'est le problème de finances, d'argent. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça coûte cher aux familles, je suis tout à fait d'accord. En plus, vous payez deux fois l'école, parce que par vos impôts, vous payez l'école publique, et donc ensuite, vous la payez une deuxième fois avec la scolarité des écoles hors contrat. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, c'est un constat. Que faire? Malheureusement, nous, on ne peut pas faire les écoles gratuites, parce qu'il faut payer nos professeurs, et encore, on ne les paye pas avec les salaires mirobolants de l'éducation nationale, qui ne sont pas quand même des gros, gros salaires. Donc, si vous voulez, comment faire? Bon, ben, c'est là où on essaie de trouver des aides, hein, que ce soit, vous connaissez sans doute l'ADEC, que ce soit le MCF, etc. On essaie de trouver des bienfaiteurs, les grands-parents qui peuvent peut-être aider les enfants, etc. La scolarité, enfin bref, il faut se débrouiller, c'est vrai. C'est vrai. Mais encore une fois, je pense, j'ai jamais vu ce souci être l'unique raison de ne pas mettre un enfant dans une école. Non. Parce qu'on peut toujours s'arranger, on peut toujours trouver des solutions. Voilà, alors pour terminer, j'aurais voulu vous donner des arguments a contrario. Pourquoi mettre vos écoles dans les vraiment catholiques? C'est voir ce qui se passe à côté. Bon, je suis désolé, ça passe un petit peu. Je ne sais pas ce que je vais choisir. Bon, il y a le problème de l'éducation sexuelle déjà, hein, qui est présente partout, dès le primaire, dans les programmes d'État. Bon, soyons clairs, là aussi, c'est ni plus ni moins une incitation à la débauche. Hein, et, enfin, essayez de, ayez la curiosité de regarder des livres officiels. Vous avez suivi d'aller dans une librairie. Regardez les programmes officiels pour les classes de primaire. Bon, ça a dû changer maintenant, mais avant c'était 5e, 4e, 3e, etc. Il y a toutes les photos à l'appui, il y a tous les moyens de contraception, de voilà tout ce que vous trouvez là-dedans. Hein, il y a tout, il y a toutes les photos, il y a comment mettre tous ces moyens. Enfin bref. Donc, comment voulez-vous que les enfants ne soient pas pourris? Ah, mais c'est normal, il faut bien qu'ils le savent. Et puis voilà, il faut bien qu'ils sachent comment. Alors, justement, à ce sujet-là, là aussi, on a entendu des parents nous dire, mais finalement, cette éducation sexuelle à l'école, c'est pas si mal que ça. Parce que, bah, au moins, ils savent les choses, quoi. Alors, c'est pas du tout la réponse des papes, hein, je peux vous dire. Bon, je ne vais pas lire, mais si vous voulez, Pie XI, déjà, donc en 1929. Très répandue est l'horreur de ceux qui, avec des prétentions dangereuses et une manière choquante de s'exprimer, se font les promoteurs de ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle. Ils se figurent faussement pouvoir prémunir la jeunesse contre les périls d'essence uniquement par les moyens naturels, tels que cette initiation téméraire, cette instruction préventive donnée à tous indistinctement et même publiquement, ou ce qui est pire encore, cette manière d'exposer les jeunes gens pour un temps aux occasions, afin, dit-on, de les familiariser avec elles et de les endurcir contre leurs dangers. Bien sûr, la grande erreur ici est de ne pas vouloir admettre la fragilité native de la nature humaine. Donc là, il nie les conséquences du péché originel, là aussi. Mais par contre, et j'en reviens là, là aussi, les parents parfois oublient qu'il s'agit que c'est leur devoir à eux de faire l'apprentissage de ce qu'on appelle les lois de la vie. Ce n'est pas à l'école de le faire, c'est aux parents. Et il s'agit d'un devoir grave. Alors évidemment, en soi, c'est légitime que ce soit la maman qui initie leur fille et que ce soit le papa qui initie leur garçon. Mais sachant qu'il faut mieux parler une heure trop tôt qu'une heure trop tard. Parce que si vos garçons, vos filles n'apprennent pas cela de vous, ils apprendront ça de leurs camarades et ça ne sera pas avec le doigté que peuvent faire les parents. Donc là aussi, ne négligez pas ce devoir. Ce n'est pas à l'école de le faire. Là aussi, j'ai tout entendu. J'ai des parents qui s'étonnaient que les religieuses, donc en l'occurrence les dominicaines, n'en aient pas parlé à leurs filles. Je dis, mais écoutez, mais c'est pas aux dominicaines de faire ça. Alors ensuite, qu'au cas par cas, qu'il y ait des exceptions, qu'on puisse être amené, ou les prêtres pour les garçons, ou peut-être les religieuses pour les filles, ça peut arriver, mais c'est du cas par cas, et ça se fait en privé, et encore avec toute la délicatesse que l'on peut. Mais c'est d'abord aux parents de faire ça, c'est évident, ça appartient aux parents. Alors, ne négligez pas ce devoir. Ensuite, à contrario aussi, l'autre problème qu'on voit dans les autres écoles, la mixité. Là aussi, l'Église l'a toujours condamné pour des raisons morales. Vous pouvez reprendre aussi le pape Pie XI, déjà à l'époque. Il appelle ça la coéducation des sexes. C'est une erreur du même genre et non point opposée à l'éducation chrétienne que cette méthode dite de coéducation des sexes. Méthode fondée elle aussi aux yeux de grand nombre sur un naturalisme négateur du péché originel. On revient toujours là, la négation du péché originel. Et après, il dit, le Créateur a ordonné et disposé la parfaite communauté de vie entre les deux sexes seulement dans l'unité du mariage. Ensuite, elle les sépare manifestement dans la famille et dans la société. Il y a d'ailleurs dans la nature elle-même qui a fait les sexes différents par leur organisme, par leur inclination, par leur aptitude, aucune raison qui montre que la promiscuité et encore moins une égalité de formation puissent ou doivent exister. Les sexes, suivant les admirables desseins du Créateur, sont appelés à se compléter réciproquement dans la famille et dans la société, et justement par leur diversité même. Cette diversité est donc à maintenir, à favoriser dans la formation et dans l'éducation, en sauvegardant la distinction nécessaire, avec une séparation correspondante en rapport avec les âges différents et les différentes circonstances. Voilà. Et ensuite, il dit, effectivement, la véritable mixité, ça se fait précisément dans la famille. C'est la famille qui doit le faire. Ensuite, je ne pourrais pas tout lire, c'est dommage, parce qu'il y a un très bel article avec un titre un peu qui va vous interpeller, mais où sont passés les garçons? C'est un article qui est tiré du numéro 221 de la revue Action Familiale et Scolaire, la FS. Un article très bien, qui répond sur pas mal de choses. Je m'excuse d'être peut-être un peu plus long, mais je pense que c'est intéressant quand même. Les statistiques tombent et enfoncent le clou. Quelques chiffres au hasard. Les deux tiers des jeunes sortant du système éducatif sans aucune qualification sont des garçons. En médecine, 62% des titres de doctorat ont été accordés à des filles en 2008. À l'École nationale de la magistrature, 82% sont des filles. L'école vétérinaire de Maison-Alfort comporte en 2012 80% d'étudiantes. Dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, 56% de filles. 86% des femmes contre 80% des hommes âgés de 20 à 24 ans sont titulaires d'un diplôme de second cycle dans l'enseignement secondaire. Il n'y a plus que dans les écoles d'ingénieurs, de technologie ou d'informatique que les garçons soient largement majoritaires. Pour combien de temps? Les rapports internationaux soulignent le retard des garçons par rapport aux filles. Euricide parle même de crise de masculinité. Dans le parcours scolaire, dès le début, les garçons sont en retard en lecture et écriture et forment l'essentiel des effectifs des structures pour enfants en difficulté ou en comportement violent. Plus souvent que les filles, ils font l'objet d'une orientation en cycle professionnel. Meilleurs en français, les filles sont pratiquement à égalité avec les garçons en mathématiques. Bref, quoi qu'on en dise, l'échec scolaire, c'est majoritairement un problème de garçons. Nous nous réjouissons bien sûr du succès des demoiselles dans leurs études. Mais comment expliquer cette supériorité sur les garçons? Alors après, il va essayer de donner plusieurs explications. Quelle place reste-t-il aujourd'hui pour les garçons et même plus généralement pour les hommes, quand tout est jugé, pensé, pesé à l'aune du compassionnel et du sentiment, quand le principe de précaution est devenu la norme et qu'on a le brisque zéro pour toute ambition, quand les femmes se veulent identiques aux hommes et que les mères font un procès pour leurs fils tombés au champ d'honneur? Bref, dans une société féminisée, on peut comprendre que des hommes se sentent un peu de trop et se réfugient les uns dans l'homosexualité, les autres dans l'affirmation de soi par la violence gratuite ou encore dans la fascination d'un islam viril et dominateur. Oui, c'est assez bien vu, hein, c'est bien vu. Ensuite, je reviens au sujet, je passe, hein, vous pourrez tout lire. Je reviens à la mixité précisément. Il parle de cela. La mixité a été introduite précipitamment et pour de mauvaises raisons. Il s'agissait alors de problèmes de gestion et de démographie scolaire. L'impact pédagogique d'une éducation indifférenciée n'a pas du tout été seulement envisagé. Or, il semble qu'elle se soit faite à l'avantage des filles par rapport aux garçons. Combien de fois entendons-nous dire « la présence des filles adoucit les garçons et les oblige à se tenir » Mais on n'entend jamais « la présence des garçons endurcit les filles ou les rend moins chippies ». Là encore, à qui demande-t-on de changer et de s'adapter aux seuls garçons? En fait, on s'attend d'eux qu'ils soient moins garçons. Les exigences scolaires elles-mêmes, lorsqu'elles sont trop indifférenciées pour convenir aux deux, avantagent plus les filles que les garçons. En présence de maturité différenciée, on demandera la même chose aux deux. Les garçons, mis publiquement en état d'infériorité, compenseront dans le domaine que la nature leur laisse, la force physique, mais utilisée à mauvais escient, parce que mu par le ressentiment, terreau très favorable à la marginalisation et à la délinquance. Dans le meilleur des cas, l'école devient pour eux un truc de filles. Ils s'en désintéressent et leur désarroi identitaire ne fait que s'aggraver. La recherche anxieuse et constante du risque zéro, risque physique bien sûr car le risque psychologique et moral ne compte jamais, conduit les garçons qui ont, à la différence des filles, besoin d'éprouver leur force physique jusqu'à leurs limites dans le défi, la compétition, l'aventure et le risque calculé à des frustrations dangereuses. Bon, voilà. Que faire alors? Faut-il se résigner, se contenter de calmer le ressentiment, la déprime ou l'agressivité de nos fils à coups de Ritaline, dont l'usage en France commence à se banaliser? Continuer à constituer des cours de soutien à structure ad hoc presque uniquement peuplées de garçons, ce qui renforce encore leur sentiment d'infériorité, etc. Si néanmoins la non-mixité ne résoudra pas tous les problèmes, surtout si elle n'est pas plus pensée que la mixité, nous pensons dire avec Michel Fille, sociologue, spécialiste des questions de l'adolescence, qu'en termes d'égalité des sexes, la mixité scolaire a échoué. Au nom de la neutralité laïque, le système éducatif ne laisse aucune place aux différences. Donc, premier remède serait de reconnaître une bonne fois pour toutes qu'un garçon et une fille, un homme et une femme, c'est peut-être égal, mais ça n'est pas semblable. Et loin de la théorie du gender, du genre. Si une fois adultes, les hommes veulent jouer aux femmes et les femmes se croire des hommes, c'est leur affaire. Mais laissons au moins leur chance à nos enfants et adolescents. Élevons-les, aidons-les à grandir et à se construire conformément à ce qu'ils sont et qui est exprimé par le code génétique de chacune des milliards de cellules qui les composent. Il est urgent de redonner à l'homme dans la société toute sa place, n'en déplaise aux féministes qui ne voient en lui qu'un macho et un concurrent. Pour cela, on revient au point précédent, souligner les différences ontologiques entre l'homme et la femme, non pas pour les opposer, mais pour les accorder. Encourager les hommes à reprendre leur place dans les métiers d'autorité sur les enfants, l'enseignement, la justice, au moins celle des mineurs, métiers sociaux et éducatifs divers, valoriser l'autorité paternelle quand c'est possible, etc. On le voit, on n'élève pas un garçon tout à fait comme une fille. Et ce n'est pas là reproduire les stéréotypes sexués, comme on dit, mais simplement faire preuve de réalisme. Pour retenir l'attention des garçons et les faire progresser, il faut tenir compte de leurs goûts, de leurs aptitudes et leur maturité. Il en est de même pour les filles, bien sûr, mais École Mixte est devenue en fait une école pour les filles. On ne peut pas demander la même chose au même moment aux deux. Bon, après, il donne des exemples, etc. Mixité ou non-mixité, il faudrait avant tout que les professeurs soient formés à cette pédagogie différenciée, totalement négligée jusqu'à maintenant. Nous pourrions prendre exemple sur nombreux pays qui nous ont précédés sur ce point avec des résultats encourageants. Nous essaierions alors peut-être de descendre, marche après marche, les palmarès internationaux. Mais bien au-delà des palmarès et compétitions, il y va surtout de l'avenir et de l'équilibre psychique de nos fils et de notre société tout entière. Bon, vous voyez, c'est assez intéressant comme analyse. Je pense que c'est vrai. Alors, je ne parlerai pas de ça, je voulais vous en parler un petit peu, mais tant pis, je vous laisserai, je vous donne juste pour montrer aussi les programmes officiels. Donc, vous voyez, cet article a abordé le problème du genre, gender. Eh bien, dans le bulletin officiel de l'éducation nationale de juillet-août 2014, eh bien, ils sont repartis là-dessus, ce qu'ils appellent les ABC de l'égalité. ABCD de l'égalité. C'est ni plus ni moins, même s'ils ont changé les noms hein, à cause des protestations qu'il y a eu, ben, c'est ni plus ni moins l'introduction de la théorie du genre. Alors, si vous voulez vous former là-dessus, je peux vous conseiller, vous avez un article du Cahier Saint-Raphaël numéro 116, donc l'Association catholique des infirmières, médecins professionnels et santé, le gender contre la nature. Très bien fait, il vous explique le problème philosophique hein, de ce que c'est que le gender. Si vous voulez résumer dans Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Donc, si vous voulez, on devient femme, donc voilà, enfin, vous avez dû en entendre parler, c'est absurde, mais c'est comme ça, ils ont quitté la réalité. En réalité, derrière, qu'est-ce que c'est? C'est un besoin absolu de liberté de l'homme. Donc c'est vraiment diabolique. C'est l'homme qui veut faire la nature à son image, comme il veut. Donc on voit bien derrière la patte du démon. Et puis le dernier numéro qui vient de paraître, toujours du Cahier Saint-Raphaël, numéro 119, « Homme et femme, il les créa ». Et c'est vrai que là, il donne des arguments scientifiques qui vont contre la théorie du gender. Des choses toutes simples, hein. Puisque théorie du gender, on dit c'est l'éducation qui fait qu'une femme se comporte comme une femme et un homme comme une femme. Or, il faut laisser les garçons et les filles choisir. Donc, il faut laisser les garçons jouer avec des poupées Barbie et puis les filles laisser jouer avec des petits camions et l'armée. Bref. Et là-dedans, il prouve, donc c'est des médecins qui parlent, hein, qu'en réalité, c'est l'éducation n'a rien à voir, c'est dans les gènes. Par exemple, il y a un article qui vous dit « Le placenta se comporte différemment selon le sexe. Que la femme attende un garçon ou une fille, c'est différent. » Bon, il va parler de l'instinct maternel aussi. Ensuite, quelque chose invraisemblable, mais qu'ils sont en train de découvrir, le lait de la mère est différent selon que c'est un garçon ou une fille. Donc tout ça, ce n'est pas un problème d'éducation. C'est déjà dans les gènes. Donc, vous pouvez lire, il y a un article hein, d'un médecin qui explique ça. Voilà, alors il dit, vous voyez, bon, la médecine, la maladie ne touche pas ces messieurs et ces dames de la même manière. Donc, on voit qu'on est vraiment programmé dans la nature. Donc, il y a quelque chose d'objectif, hein, indépendamment de nous, hein, de l'éducation qui peut être donnée. Un garçon avec une Barbie, impossible, dit la génétique. Il y a tout un article là-dessus qui dit non, c'est pas possible. Bref, donc voilà, vous avez de quoi lire là-dessus si vous voulez vous former. Voilà, en tout cas, terminons par prier pour nos bonnes écoles, hein, tout simplement, et dont c'est vraiment l'avenir de la société et de l'Église, hein, même si c'est une œuvre difficile d'éducation, mais encore une fois, il y va d'abord du salut de nos enfants, hein, le salut de l'âme, et puis ensuite, eh bien, la poursuite de la société, qu'elle soit civile ou ecclésiastique. Donc, sachons bien prier et en tout cas soutenir toutes nos bonnes écoles. Voilà, comme j'ai été un peu long, dans ce cas-là, je vous laisse aller vous-même faire une prière à l'église ou alors celles qui ont un rendez-vous avec des prêtres, vous pouvez y aller.